Bien, mais écoutez, il est l'heure. Commençons. Donc ça, c'est le deuxième cours de, sur cette série de cours. Et on va principalement étudier trois caractéristiques du langage qui sont l'alternative, qu'on avait commencé à voir la fois dernière. On va revenir un petit peu sur deux variantes de l'alternative qu'on appelle les connecteurs logiques. Et on terminera par la forme spéciale let, qui correspond à ce qu'on appelle des blocs internes avec variable locale. Alors, la fois dernière, donc, on avait rapidement balayé, pourquoi un langage, pourquoi ce langage particulier, etc. Et on était arrivé à l'alternative et la définition de fonction. Donc l'alternative, on avait été un petit peu rapide, donc on va reprendre dessus aujourd'hui. Donc auparavant, faisons un point sur les définitions de fonctions, et notamment en termes de vocabulaire, ce qui est impliqué par les définitions de fonctions. D'abord, ce que l'on vous demande, et ce qui en fait est souvent exigé en fait dans toutes les sociétés qui font de l'informatique, et ce qui est souvent utile, même pour vous, lorsque vous écrivez ce qu'on appelle des petits scripts. Des scripts, ce sont des petits morceaux de programme, en général pas très gros, c'est-à-dire qui font, je dirais, moins d'une centaine de lignes, de 200 ou 300, et qui répondent à une tâche très particulière, qui en général ne servent qu'une seule fois, et disparaissent tout de suite après leur travail accompli. L'ennui souvent, c'est qu'on est dans une société où chaque fois qu'il y a un morceau de code qui bouge, on a tendance à essayer de le faire durer plus longtemps, c'est-à-dire au lieu de s'en servir une fois, il va servir plusieurs fois. Puis au bout d'un moment, on va rajouter des variantes, on va rajouter des options, on va rajouter des traitements supplémentaires, et ce qui était parti comme un petit script qui répondait à une unique question et qui ne devait tourner qu'une seule fois, devient un gigantesque programme plein de verrues qui tourne tous les jours et qui est mal écrit, immaintenable et qui finalement à la fin coûte de l'argent. Donc ça c'est comme ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on dit toujours que le logiciel a une certaine durée de vie et pourtant le logiciel c'est quelque chose de complètement immatériel qui devrait être complètement constant, ne jamais bouger et toujours marcher. Une fois que ça marche, on se dit un logiciel c'est pas comme une machine mécanique, ça ne s'use pas, ça devrait continuer à tourner. Sauf que le logiciel, pour qu'il tourne, il s'appuie sur un environnement, c'est-à-dire un système d'exploitation, un ordinateur, qui sont autant de choses qui évoluent dans le temps. Ce qui fait en fait que, bien que ce soit physiquement inusable, les logiciels en fait s'usent. Et ils s'usent pour deux raisons. D'abord parce que l'environnement dans lequel ils tournent change, évolue. C'est un peu comme si vous aviez un super klaxon sur votre voiture, vous changez de voiture, votre super klaxon il marche plus parce qu'en fait avant vous aviez une voiture avec une batterie à 24 volts, maintenant vous avez une batterie à 12 volts et ça ne suffit pas pour que votre klaxon continue de marcher. Ou vous avez une batterie à 6 volts, etc. Donc en fait on s'aperçoit que ça c'est le premier facteur d'usure des logiciels, c'est qu'effectivement l'environnement change et qu'il faut qu'il s'adapte. Et deuxièmement, dès qu'un logiciel fait quelque chose, il y a des gens qui disent c'est très bien mais ça serait mieux si ça faisait aussi ça. Et là, la pression des utilisateurs est telle que les logiciels évoluent. Alors ils évoluent, ils rajoutent des caractéristiques. Si vous regardez par exemple les premiers texteurs, c'est-à-dire les premiers traitements texte qui existaient il y a à peu près 15 ans, les WordStar et compagnie, ça faisait pas grand-chose. Ça savait centrer un titre et c'est à peu près tout ce que ça savait faire et faire des paragraphes. Et maintenant, vous avez des tonnes et des tonnes de menus pour dire... je tolère qu'il y ait des capitales accentuées dans les titres, etc. Enfin, toutes sortes de raffinements qui n'étaient pas prévus au départ, mais qui maintenant font que, au lieu d'avoir un menu avec simplement trois entrées qui sont écrire un texte, le sauvegarder et en créer un nouveau, maintenant vous avez des tonnes de menus et vous avez des menus qui vous permettent de composer vos menus, etc., etc. Donc en fait, maintenant vous avez une inflation énorme de ces logiciels-là et ils sont à peu près 100 fois plus gros qu'ils n'étaient en fait initialement pour les mêmes fonctions. Sauf que la périphérie pour pouvoir les gérer est devenue tellement énorme qu'elle finit par prendre en fait toute la place. Donc tout ça sont les facteurs d'usure de logiciels, ce qui fait que quand vous avez des petits scripts qui vont servir qu'une seule fois, vous pouvez les jeter, mais lorsque vous avez des scripts qui risquent de servir plusieurs fois, vous avez intérêt à les documenter, c'est-à-dire à dire ce qu'ils font. Et là, à ce moment-là, pour chaque, fonction, et ça existe dans tous les langages, vous êtes obligé d'indiquer un certain nombre de caractéristiques qui vont vous permettre plus tard de pouvoir retrouver qu'est-ce que ça fait, pourquoi ça marche, etc., etc. Donc, le code que vous aurez à écrire possède deux parties, une partie dite de spécification et une partie dite de définition. La définition, c'est la façon simple, c'est l'ordre define que vous avez en scheme qui permet de définir une fonction Ça porte des noms différents dans d'autres langages, mais c'est la même idée, vous définissez les fonctions, et les fonctions sont des choses qui prennent en argument des données et qui fabriquent un résultat. Et la spécification, eh bien, suivant les langages, il y a des langages qui vous imposent que les spécifications aient des formes, comment dire, qu'ils vont eux-mêmes vérifier. En Scheme, on est dans un langage beaucoup plus tolérant, et la spécification, en fait, apparaît techniquement dans le langage comme des commentaires destinés uniquement à l'être humain. Mais comme ce sont des commentaires destinés à l'être humain, l'évaluateur Scheme ne va pas vérifier leur cohérence, pas du tout. La spécification comporte elle-même deux parties, c'est-à-dire qu'elle est elle-même structurée en une signature et la sémantique. La signature, c'est, en fait, je dirais, le type de la fonction. Quels sont les types des arguments en entrée? Quel est le type du résultat en sortie? Et c'est ça la chose qui est vraiment importante. Bien sûr, il y a le nom, que j'ai oublié de mentionner, mais en général, quand on définit quelque chose, c'est pour pouvoir l'utiliser, et on ne connaît pas d'autre moyen d'utiliser quelque chose que de lui donner un nom, ce qui permet de le retrouver plus tard par son nom. Maintenant, la seconde partie, c'est ce qu'on appelle la sémantique. Alors, sémantique, c'est un, comment dire, un mot grec, sémios, qui parle du sens des choses. Parce qu'en fait, lorsque vous avez une fonction, que vous connaissez son nom, le type des arguments et le type des résultats, ça ne vous dit rien sur ce que fait la fonction. Regardez par exemple, sinus et cosinus, ce sont deux fonctions différentes, pourtant l'une et l'autre prennent des nombres réels et fabriquent des nombres réels. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas les distinguer sur leur type. Leur type, c'est le même. Elles prennent des réels et fabriquent des réels. Donc en fait, il vous faut en fait une information supplémentaire qui est qu'est-ce que font les fonctions. Et ceci, en fait, c'est ce qui donne du sens à la fonction, c'est ce qu'on appelle la sémantique. La sémantique, c'est la définition de ce que fait la fonction en termes, je dirais, suffisamment, comment dire, abstraits, pour que vous sachiez ce qu'elle fait. Par exemple, sinus vous dit, eh ben, je fabrique un nombre qui a les propriétés que dans un triangle rectangle qui aurait, comment dire, à sa base un angle qui aurait la même taille, alors c'est le rapport du, alors sinus c'est côté opposé sur hypoténuse, oui, c'est côté opposé sur l'hypothèse. Oui. Bien. Donc ça, c'est la sémantique indique le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que fait la fonction. Alors que la définition, en fait, qui est du code scheme, c'est du code exécutable, la définition indique le comment, c'est-à-dire comment ça se calcule. Et vous voyez bien sur l'exemple de sinus, que la définition du sinus qui dit c'est le rapport dans un triangle rectangle du côté opposé sur l'hypoténuse n'a rien à voir avec la façon dont ça se calcule. Et d'ailleurs, si dans un langage de programmation vous utilisez la fonction sinus, je peux vous dire que la façon dont le sinus se calcule, c'est en fait, grosso modo, de tout ramener, c'est juste une image, de tout ramener sur l'intervalle 0 pi sur 2, puisqu'en fait, c'est le seul intervalle intéressant, puisque tous les autres, par symétrie, comment dire, modularité, peuvent se ramener là. Et ensuite, sur l'intervalle 0 pi sur 2, la façon standard de le calculer quand on veut 6 décimales, c'est de découper cet intervalle en 3 morceaux, et d'interpoler la fonction sinus, donc qui ressemble à quelque chose comme ça, en 3 polynômes du 8e ou 9e degré. C'est comme ça que ça calcule. Et vous voyez bien que ça n'a aucun rapport avec le fait que c'est le quotient de la longueur du côté opposé avec l'hypoténuse. Ça se calcule comme ça. Et donc vous voyez bien en fait qu'entre le comment et le quoi, il n'y a strictement rien à voir. Par contre, le comment doit faire ce que dit le quoi, et le quoi bien sûr doit décrire ce que fait le comment. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui est complètement intellectuel et abstrait entre la spécification qui dit « voilà ce que ça fait » et la définition qui dit « voilà comment ça se calcule ». Et voyez bien qu'il y a, comment dire, c'est très différent. Alors bien sûr, pour l'instant, pour les petites fonctions que vous écrivez du genre « calcul de la TVA », il est assez dur d'être très abstrait. La TVA, ça se calcule en prenant, je ne sais plus combien, 17,6 exactement, ou 17,6, non ? Ou 20,6, je sais plus. Bon, c'est un certain chiffre. On va prendre l'ancien chiffre que je connaissais, c'était 18,6 qui était valable il y a 10 ans. Donc en fait, la TVA, c'est vrai que c'est la multiplication du prix par ce coefficient de taxe qui est 0,186. C'est vrai que là, le quoi et le comment sont extrêmement proches. Par contre, vous le voyez bien pour la fonction sinus, le quoi et le comment sont complètement différents parce que on est dans deux mondes différents. Un monde du calcul ici, et là, un monde de la description. Pourquoi fait-on des descriptions? On fait des descriptions parce que les deux mondes, en fait, sont complètement séparés. Pour utiliser la fonction sinus, vous n'avez pas besoin de savoir comment c'est fait à l'intérieur. Et d'ailleurs, fort probablement, il n'y en a pas un parmi vous qui savait que, lorsqu'on veut 6 décimales, les sinus sont calculés par 3 polynômes, comment dire, du 8e ou 9e degré. Et vous n'en aviez rien à faire. Ce qui vous intéressait, c'était ce que faisait la fonction sinus, pas comment elle était faite. C'est-à-dire qu'en fait ici, vous voyez, il y a un trait, comment dire, totalement opaque, qu'on appelle une abstraction. C'est-à-dire que vous êtes capable de raisonner en des termes abstraits qui sont la fonction sinus, indépendamment de sa réalisation physique qui se trouve en dessous. Et ça, c'est à la base de l'informatique. L'informatique, c'est, quand vous avez un problème, d'arriver à le résoudre dans des termes, comment dire, abstraits, c'est-à-dire vous résolvez le problème en le découpant en des sous-problèmes, les sous-problèmes eux-mêmes sont résolus en les découpant en des sous-sous-problèmes, etc. Et puis à un moment donné, à chaque niveau en fait, vous résolvez votre problème à l'aide du niveau en dessous. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, pour trier des cartes à jouer, il faut être capable de comprendre que les cartes à jouer sont, comment dire, représentées par une couleur et un, comment dire, une figure ou un numéro dans la couleur. Et vous n'avez pas besoin de savoir que les numéros sont codés par des nombres, par des flottants, par des chaînes de caractères, etc. Ça n'a aucune importance à ce moment-là. Vous raisonnez à votre terme. Puis ensuite, vous dites, bien, si maintenant je sais raisonner et résoudre mon problème en ces termes-là, chacun de ces termes-là, lui-même, doit être résolu. Et vous descendez d'un cran. Et donc c'est la façon, je dirais, standard de résoudre, qui consiste à dire, on va d'abord, alors soit on est ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire vous partez du problème initial et vous le décomposez en sous-problèmes jusqu'à trouver des problèmes triviaux que vous avez traités, soit vous avez des approches qu'on appelle bottom-up, qui consistent à partir du bas, qui consiste à dire, je sais faire ça, donc je sais faire ça, parce que je sais faire ça, je sais aussi faire ça, et petit à petit vous échafaudez en fait quelque chose qui vous mène au problème. On reviendra sur tous ces aspects-là. Mais sachez bien donc qu'il y a une différence donc flagrante entre la sémantique qui permet d'utiliser une fonction et la définition qui permet de savoir comment elle est faite. Mais, et là je serai, comment dire, je vais le rappeler, pour une fonction ici, vous avez plusieurs sémantiques possibles, et pour une sémantique possible, vous pouvez avoir plusieurs fonctions possibles. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport, c'est-à-dire qu'il y a un contrat. Le contrat, c'est que la définition doit faire ce que dit la sémantique, mais elle peut en faire plus. Elle a le droit d'en faire plus. Puisque si elle en fait plus, elle répond à la sémantique, mais elle en fait plus. D'accord? Par exemple, vous avez vu en maths, où vous verrez que très souvent, on fait ce qu'on appelle des plongements, qui consistent à prendre une fonction et à l'étendre sur un domaine plus grand. Prenons par exemple la fonction factorielle. La fonction factorielle dit, la factorielle de n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois n. Très bien. Ce qui veut dire que la factorielle, vous l'avez définie là sur les nombres entiers naturels positifs. D'accord? Maintenant, la factorielle de 0, c'est quoi? Ben, la factorielle de 0, déjà, on dit, par convention, on dira factorielle de 0, ça vaut 1. Mais en fait, quand vous prenez la définition initiale, la définition initiale dit c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, mais de 1 à 0, il n'y a aucun nombre. Alors déjà, les trois petits points, on n'a pas une idée très nette de ce que c'est. Pourquoi on prend 1? Parce que c'est l'élément neutre de la multiplication et que c'est facile. Maintenant, c'est quoi la factorielle de moins 1? Il y a des gens qui disent, la factorielle de moins 1, ça existe, et ça vaut 0. C'est-à-dire qu'ils ont étendu la définition. Maintenant, quand vous utilisez une factorielle uniquement sur des nombres positifs, vous n'en avez rien à fiche que factorielle de moins 1 donne 0, puisque vous ne l'utilisez que sur les nombres positifs. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir, pour une factorielle qui vous dit, moi je marche pour tous les nombres positifs, vous pouvez très bien avoir une implantation qui est capable de vous rendre des résultats sur les négatifs. Si vous ne les utilisez pas, ce n'est pas votre problème. Ça veut dire qu'en fait, pour une sémantique qui dit « moi je vous donne la factorielle sur les entiers positifs », vous pouvez très bien avoir des implémentations qui sont capables de calculer la factorielle sur des nombres complexes, par exemple. Ce n'est pas votre problème, puisque vous n'utilisez que le sous-ensemble des entiers naturels. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a un contrat entre les deux parties, que l'implémentation doit satisfaire le contrat, c'est-à-dire faire au moins ce qu'elle a promis de faire dans le contrat, mais elle a le droit d'en faire plus. Par contre, elle ne peut pas en faire moins, parce qu'à ce moment-là, elle violerait le contrat. Et maintenant, indépendamment, vous avez une définition ici, vous pouvez synthétiser un contrat disant « elle est capable de faire ça ». Mais maintenant, vous pouvez synthétiser un autre contrat en disant « mais elle est aussi capable de faire ça ». Alors bien sûr, les contrats ont une partie commune, mais vendre une factorielle qui marche pour les entiers positifs ou une factorielle qui marche pour tous les complexes, c'est deux spécifications différentes, même si éventuellement à l'intérieur, c'est la même fonction. Vous voyez ce rapport qu'il y a entre comment dire, la spécification et la définition qui sont tenus par ce contrat, et ce contrat, en fait, c'est la sémantique qui est ici. Bien, donc toujours, en fait, et on vous demandera pour tous les exercices que vous aurez à faire, en fait, à chaque fois d'écrire une spécification. Et donc voici un premier petit exemple qui est, j'aurais dû baisser un petit peu la bête. peu près. Bien, voici un, comment dire, une définition qui est une fonction assez simple, qui s'appelle moyenne de trois nombres. Elle prend trois arguments, x, y et z. Vous le voyez au niveau du type, elle s'appelle moyenne de trois nombres. Elle prend un nombre, un nombre, un nombre, et elle rend un nombre. Cette moyenne de trois nombres, la sémantique, elle dit, moyenne de x, y, z rend la moyenne arithmétique de x, y et z. Donc ça, c'est trivial, c'est assez simple. C'est son contrat, à savoir prendre trois nombres et rendre la moyenne arithmétique des trois nombres. Voici une première implémentation qui est triviale. Vous faites la somme des trois nombres, vous divisez par trois, c'est une implémentation. Mais en voici une autre, qui est de dire, je prends la somme des tiers des trois nombres, c'est exactement la même chose. Et effectivement, votre niveau en maths est suffisant pour que vous voyez tout de suite que ces deux trucs calculent bien la même chose. Mais en fait, que ce soit implémenté comme ça, n'a aucune importance. La seule chose qui vous importe pour utiliser cette fonction-là, c'est juste de savoir ces deux lignes-là. Et une fois que vous le savez et que vous avez compris le sens des mots, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe là. Alors, en fait, quand vous ferez plus tard des calculs, que vous soyez physicien ou informaticien, vous verrez en fait qu'il y a des subtiles différences dans les nombres flottants entre ces deux expressions-là, mais on ne revient pas là-dessus, pour l'instant, c'est la même chose. Alors, les fonctions, une fois qu'elles sont créées, on les applique. On les applique, c'est-à-dire qu'on on leur donne des arguments et on leur dit « j'aimerais savoir ce que ça donne ». Donc voici ici deux petits exemples. Je demande la moyenne de trois nombres 13, 18 et 14. Mais on a le droit, bien sûr, pour les arguments, de prendre des programmes plus complexes. Et notamment, je peux dire, tiens, j'aimerais avoir la moyenne de 4 plus 5, de 5 et de 8 moins 1. Aucun problème, il n'y a aucune limitation. Les arguments peuvent eux-mêmes être le résultat d'un calcul complexe. Et par exemple, ici, vous avez un exemple où je demande la moyenne de trois nombres, dans lequel je demande aussi, comme deuxième argument de cette fonction-là, la moyenne de trois autres nombres. C'est combinable sans aucune restriction. Ça, c'est une chose importante. Il y a un certain nombre de langages de programmation qui ont des restrictions, c'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas le droit de mettre, c'est le cas en Fortran, par exemple, on n'a pas le droit de mettre plus de 8 niveaux de parenthèse, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire d'expressions aussi compliquées que l'on veut. Ce qui veut dire que le jour où on dépasse ce niveau-là, on est obligé de casser soi-même le code, ce qui est, comment dire, pénible, etc. Dans la plupart des langages, je dirais, raisonnables, il n'y a aucune limitation de ce genre-là. C'est-à-dire que, quelles que soient les expressions, vous pouvez toujours fabriquer une expression qui les englobe. Aussi grande soit-il, et en Scheme, vous pouvez faire des expressions qui contiennent 1 million d'arguments, il n'y a aucun problème, ça marche. Alors, voilà un autre exemple dans lequel on fabrique quelque chose. Et donc, la façon dont la fonction est appliquée, ce qu'on appelle l'évaluation de cette application, c'est en fait la suivante. La première chose, c'est qu'on calcule les arguments. Donc, pour pouvoir appliquer la fonction moyenne de trois nombres, il faut obtenir d'abord la valeur de ces trois arguments. Pour obtenir la valeur de ces trois arguments, on calcule la valeur du premier argument, plus 4 et 5, pas de problème, ça fait 9. On calcule la valeur du second argument, c'est-à-dire la moyenne des trois nombres 5, 4 et 6 qui sont là, et on calcule le troisième, 8 moins 1, 7. Une fois qu'on a acquis les trois arguments ici, on les donne à la fonction, et à ce moment-là, elle calcule la moyenne de ces trois nombres. Donc, vous voyez en fait que vous êtes dans un monde où pour pouvoir appliquer une fonction, il faut l'appliquer à ses arguments. Et ces arguments, en fait, ce sont les valeurs des programmes qui figurent après le nom de la fonction. Ici, quel est le premier argument de ce moyenne de trois nombres? C'est 9. C'est pas plus 4, 5. Plus 4, 5, c'est un programme. Et ce programme, il a pour valeur 9. Donc l'argument, le premier argument de la fonction moyenne de trois nombres ici, c'est 9. Le second argument, 4, 5, 6, ça donne 5 comme moyenne. Donc la valeur de cette chose-là devient 5, qui est le deuxième argument de la fonction moyenne de trois nombres. Et le dernier argument, c'est 7, c'est la valeur de ce programme-ci. Donc vous voyez que pour obtenir la valeur d'une fonction appliquée à des arguments, je commence d'abord par demander la valeur des arguments. Une fois que j'ai obtenu la valeur des arguments, j'applique la fonction et j'obtiens la valeur de l'application. Donc c'est un processus que l'on verra dans un ou deux cours qu'on appelle récursif, qui consiste à dire, je calcule les arguments d'abord et ensuite je les donne aux fonctions qui calculent ensuite leurs résultats. Et ça, c'est systématique. Alors, il y a quelques fois malheureusement des incidents qui se passent, comme par exemple ce qui est illustré par cette expression-ci. Voyez ici que j'ai le premier argument, je calcule 4 plus 5, c'est 9. Le second argument, c'est 5 divisé par 0. Et là, bing! On ne peut pas diviser par 0. Et donc là, le calcul, on dit qu'il signale une erreur qui est division par 0. Je refuse d'aller plus loin. Et le calcul tout entier s'arrête en disant, je suis désolé, mais l'expression que vous m'avez donnée n'a pas de valeur. Ce qui veut dire que le processus d'évaluation, soit il mène à une valeur, soit il ne mène pas de valeur, parce qu'il s'est passé ce qu'on appelle souvent en jargon une exception, c'est-à-dire une situation tout à fait anormale, notamment ici, une division par zéro. Alors, il y a un petit exemple où on va prendre la moyenne de trois nombres, donc il faut que je retrouve où je l'ai mis. Voilà, donc on va ouvrir donc dans notre environnement le fichier moyenne de trois nombres, qui doit se trouver ici. Voilà, donc là vous l'avez, donc une fois de plus, la fenêtre d'édition, la fenêtre d'évaluation. Je peux demander à faire analyser la syntaxe de manière à voir ce qui se passe, et vous voyez effectivement que la fonction moyenne de trois nombres est utilisée là, 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 là et là, et que par exemple, si je cherche d'où vient le Z qui est ici, c'est bien le Z qui se trouve ici. Alors, je peux aussi demander l'exécution, et effectivement, vous voyez que maintenant, la moyenne de trois nombres ici ne pose pas de problème, celui-là ne pose pas de problème, celui-ci ne pose pas non plus de problème, mais là, on retrouve le 5 divisé par 0, et vous voyez qu'il y a une erreur signalée par ce coléoptère rouge à point noir. Encore que je ne sache pas véritablement si c'est un coléoptère, mais bon. La division par 0 arrive ici, et vous voyez au passage que la zone correspondant à l'erreur est mise en rose, ce qui vous montre bien que c'est à cet endroit-là qu'a été commise l'erreur. Vous ne pouvez pas diviser 5 par 0, ça n'a pas de sens. Donc voilà en gros ce qui se passe. À ce moment-là, vous corrigez votre erreur, vous écrivez je ne sais pas quoi un autre code, et ensuite vous n'avez plus qu'à réexécuter et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Alors, le mode fonctionnel, ce que je viens de raconter, à savoir que pour appliquer une fonction, vous calculez la valeur de ses arguments puis vous les donnez à une fonction, c'est le mode général en Scheme, sauf à quelques endroits qu'on appelle les formes spéciales. En fait, les formes spéciales, comme leur nom indique, sont spéciales. Elles ont des règles d'évaluation particulières parce que on est obligé, en fait, dans un langage, d'introduire des choses comme l'alternative à la définition. Et l'alternative à la définition ne sont pas des fonctions. Je le répète et je le souligne, et c'est l'objet d'une question de cours régulière, à laquelle, 30% d'entre vous se trompent encore. Les formes spéciales ne sont pas des fonctions. Alors, montrons un petit peu ce qu'il en est. Quand vous appliquez une application et que vous évaluez l'application, vous évaluez les arguments et vous les donnez à la fonction et ça calcule comme ça normalement. Ce qui veut dire que lorsque vous donnez trois arguments à une fonction, les trois arguments sont calculés. Les formes spéciales, elles, ont des règles spéciales et on va reprendre la forme spéciale if, c'est-à-dire l'alternative. Et vous voyez bien que l'alternative, ça doit être l'objet du transparent suivant, a une façon pas normal d'une certaine manière de calculer parce que les trois programmes, les trois expressions qui se situent derrière le if ne sont pas toutes calculées. Prenons la règle du if. Rappelez-vous, le if, l'alternative, est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire qu'il y a une condition. Si la condition est vraie, je vais faire un choix. Si la condition est fausse, je vais faire un autre choix. Donc le if then else est une opération essentielle que vous retrouvez dans tous les langages de programmation et qui est obligatoire pour arriver à programmer ce qu'on appelle toutes les fonctions calculables. Donc, vous avez une condition, et suivant que la condition est vraie ou fausse, vous irez dans la conséquence ou dans l'alternant. Donc, la façon d'être calculée est la suivante. Premièrement, l'alternative calcule la condition. Si la condition est vraie, le résultat de l'alternative, c'est le résultat de la conséquence. Si la condition vaut faux, le résultat de l'alternative, c'est le résultat de l'alternant. Ce qui veut dire qu'il y a seulement la conséquence ou l'alternant, mais exclusivement, il y en a un des deux qui est calculé, le choix étant fait par la valeur de la condition. Mais vous voyez bien que if ne peut pas être une fonction, parce que si c'était une fonction, je calculerais la condition, je calculerais la conséquence, je calculerais l'alternant, je donnerais tout à if en disant « débrouille-toi ». Et à ce moment-là, comment ferais-je, par exemple, pour dire « si mon diviseur est égal à zéro, je ne divise pas ben, ». Ça ne marcherait pas, puisque je calculerais ça où je teste la condition, je calculerais ça où je divise et je calculerais ça où je ne divise pas. Mais ça veut dire que si mon diviseur est égal à zéro, j'aurais vraiment calculé ce truc-là. Donc « if » ne peut pas être une fonction. C'est une forme spéciale qui a une règle spéciale. Alors, la condition, c'est une expression booléenne qui ramène un booléen. soit vrai, soit faux. Si la condition est vraie, la valeur tout entière, c'est la conséquence. Si la condition est fausse, la valeur de tout entière, c'est alternant. Et là, conséquence et alternant n'ont strictement, aucune restriction. Ce sont des expressions quelconques. Donc c'est donc une forme spéciale. Et donc par exemple ici, si 3 est supérieur à 2, c'est le cas, la valeur de tout ça, c'est 5. Mais si 2 est supérieur à 3, strictement ce qui est faux, la valeur de tout ça, c'est 3 moins 2, à savoir 1. Et donc, voyez qu'il y a seulement une de ces deux choses-là qui est calculée, suivant la valeur obtenue par la condition. Et ça, c'est vrai dans tous les langages de programmation. Alors voilà une petite fonction mystère, juste pour aiguiser votre attention. Voilà son code. Donc là, je n'ai donné aucune spécification, parce que si j'avais donné la spécification, vous auriez eu la spécification en disant, cette fonction fait sa spécification. Sauf que là, justement, on essaye en fait de dire, voilà, on a ce code-là, et on essaye en fait d'imaginer ce qu'elle fait, c'est-à-dire en gros, d'écrire dans sa tête la spécification manquante. Alors, qu'est-ce que vaut 402,4? Eh bien, 400 c'est x, 2 c'est y, 4 c'est z. Est-ce que x est plus grand que 100? Bah oui, 400 est plus grand que 100. Au passage, vous voyez qu'on sait comparer des nombres entiers avec des nombres flottants, c'est-à-dire en notation dite scientifique. Donc 400 est plus grand que 100, donc je vais ici. Donc je divise x qui est 400 par y qui est 2 et j'obtiens 200. Si maintenant je demande 82,4, eh bien est-ce que 80 est plus grand que 100? Non. Donc je prends ça, je divise x par z, donc je prends 80 divisé par 4 et j'obtiens 20. Maintenant si j'écris ça, et vous voyez que cette ligne-là, en fait, c'est exactement la même, sauf que j'ai remplacé 4 par 0. D'accord? Alors, 400, c'est x. Est-ce que x est plus grand que 100? Oui. Donc, je divise par y 2. Donc, le résultat, c'est 200. Et voyez bien que là, ça ne peut pas être une fonction. Parce que si if avait une fonction, j'aurais aussi calculé ce truc-là. Et ce truc-là, c'est 400 divisé par 0, ça aurait fait une erreur. Or là, ça me rend 200 sans aucun oui, 200 sans aucun problème. Vous voyez bien que if ne peut pas être une fonction parce que les trois choses ne sont pas calculées. Il y a seulement la première et la seconde ici. Et maintenant, si je reprends ma deuxième ligne et que je transforme le 4 en 0, je dis est-ce que 80 est plus grand que 0, plus grand que 100? Non. Donc je dois calculer x divisé par z, c'est-à-dire 80 divisé par 0, et là, j'ai une erreur. Et donc là, ça vous montre bien que if ne peut pas être une fonction. C'est une forme spéciale qui a une règle d'évaluation particulière. Et je le répète, c'est vrai dans tous les langages de programmation. Alors, prenons un deuxième exemple, la valeur absolue. Donc la spécification, c'est la chose suivante. Elle prend un nombre et elle rend un nombre. La valeur absolue de x rend la valeur absolue de x. Alors là, on est toujours dans des exemples qui sont triviaux, puisqu'en fait, le nom même valeur absolue suggère qu'on calcule la valeur absolue. D'un autre côté, il y a des gens vicieux qui disent la valeur absolue, ça rend par exemple la racine carrée de x. C'est tout à fait légal, on a le droit de prendre le nom qu'on veut, mais prendre le nom valeur absolue pour calculer les racines carrées, c'est pas vraiment très sérieux ni très sympathique pour les gens qui utilisent ça. Alors, voilà une première définition qui consiste à dire la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même, et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Voici une autre définition qui utilise un prédicat prédéfini dans Scheme qui est est-ce que le nombre est négatif, et si le nombre est négatif, je rends l'opposé. Sinon, je rends le nombre lui-même, c'est-à-dire tous les cas positifs et nuls. Donc voilà deux implantations, encore une fois, de la même spécification qui se trouve ici. Là encore, on est dans des niveaux de trivialité, mais vous verrez dans deux ou trois séances, quand on commencera à utiliser des structures de données plus intéressantes que les seuls nombres, qu'en fait, assez souvent, pour un même problème, il y a plusieurs types de solutions. Et ça, j'attire juste votre attention là-dessus. C'est quelque chose d'assez, je dirais, nouveau pour votre expérience scientifique. En maths, habituellement, ce qui est la matière, je dirais, que vous avez le plus travaillé au lycée, en nombre d'heures, cumulées, en général, il n'y a qu'une seule solution. Et donc, vous dites, quand j'ai la solution, c'est bon, j'y suis. En informatique, il n'y a pas qu'une seule solution. Très souvent, en fait, on vous pose des problèmes, il y a plusieurs façons de le faire. Ces façons, sont toutes pareilles, en ce sens qu'elles répondent exactement au même contrat, c'est-à-dire à la même sémantique, mais ça ne prouve pas du tout qu'elles aient les mêmes propriétés en termes de définition. Vous avez des solutions qui peuvent être rapides, des solutions qui peuvent être lentes, des solutions qui consomment de la mémoire et d'autres qui n'en consomment pas. Il y a des tas de propriétés qu'on appelle non fonctionnelles qui font que les solutions ne sont pas forcément les mêmes. Là, actuellement, pour les exercices qu'on fait aujourd'hui et que vous ferez encore dans une ou deux séances, il n'y a toujours qu'une seule solution. Mais dans deux séances, quand on commencera à faire les listes, vous verrez qu'il y a plusieurs solutions. Et il y en a des bonnes et il y en a qui sont particulièrement mauvaises. Quand je dis particulièrement mauvaise, parce qu'une solution en informatique qui met 1 milliard d'années à être calculée alors qu'on pourrait l'obtenir en 1 seconde, c'est une solution mauvaise. Ah, les matheux, eux, ça, à partir du moment où on a fourni un algorithme qui répond à la question, le problème du temps d'obtention de la solution, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de dire, il existe une solution. Mais c'est une autre science, ok, qui n'a pas ce souci d'effectivité qu'on a en informatique, à savoir qu'on aimerait bien voir les résultats. Et qu'on aimerait bien les voir avant sa mort. Donc en fait, le souci d'effectivité fait qu'il y a des bonnes solutions et il y en a des mauvaises. Et il y a des tas d'algorithmes en mathématiques, comme par exemple les calculs de déterminants, etc., où la définition mathématique en général de l'algorithme, en fait, ne conduit pas à des algorithmes implantables, je dirais de façon intéressante en informatique. Parce que les temps de calcul sont prohibitifs. Alors bien sûr, les matheux, eux, ça leur suffit. Le problème est résolu, il existe une solution. Mais ce n'est pas le problème des informaticiens qui est, il faut que ça se calcule vite. Et donc vous verrez qu'il y a plusieurs implémentations, et il y en a qui ont des bonnes propriétés, et d'autres qui n'ont pas des bonnes propriétés, même si le contrat auquel elles répondent est exactement le même. Bien, c'est quelques exemples de valeurs absolues, je passe, c'est trivial. Maintenant, on arrive donc aux conditions, et les conditions, c'est une variante du if-then-else, vous le verrez dans des exercices que vous aurez à faire, qui consiste à introduire ce qu'on appelle les connecteurs logiques, qui permettent donc de prendre des booléens et de les combiner. Vous savez en fait que lorsqu'on manipule des booléens, donc quand on fait du calcul booléen, vous avez en fait 3 opérateurs de base qui sont la négation, l'opérateur s'appelle en scheme NOT, la négation permet de prendre l'inverse d'une propriété logique, donc vrai donne faux et faux donne vrai. Vous avez la conjonction, donc ce qu'on appelle le « et », qui permet de prendre 2 booléens et de fabriquer un booléen qui est la conjonction des deux et qui ne sera vrai que si les 2 booléens arguments sont vrais. Et vous avez la disjonction qui dit « je prends 2 booléens et le résultat ne sera faux que si les 2 arguments sont faux ». Il y a ce qu'on appelle les tables de vérité que je vous dessine pour le cas de « AND » et de « OR ». Donc « AND » a une table de vérité très simple qui consiste à dire « si j'ai vrai et faux que j'écris en abrégé T et F », T et F, je n'ai le résultat de AND n'est vrai que dans le seul cas où ces 2 arguments sont vrais. C'est-à-dire qu'ici j'ai vrai et ensuite j'ai faux, faux et faux. Le résultat d'un OR, et là je parle encore donc de la table de vérité du OR, c'est que si j'ai des vrais et des faux, des vrais et des faux, le résultat ne peut être faux que si les 2 arguments sont faux. Et dans tous les autres cas, c'est vrai. Bien. Ceci étant dit, ça c'est la définition mathématique du « et du « ou ». Ce n'est pas la définition informatique, parce qu'en informatique, je l'ai dit, il y a un problème d'effectivité, c'est-à-dire de rapidité. Ce qui veut dire en fait que dans la plupart des langages de programmation, le dernier qui n'était pas comme ça c'est Pascal, mais plus personne n'en fait, vous avez en fait un effet qu'on appelle de court-circuit. L'idée du court-circuit c'est que le « AND » et le « OR » se calcule exactement, comment dire, mathématiquement, sauf que, la règle est que, dès que l'on sait quelle est la valeur du résultat final, on s'arrête de calculer. Alors, ça tient à ceci. Supposons que ceci soit le premier argument, et que ceci soit le deuxième argument, ce que je mentionne par 1 et 2 ici. Vous voyez que quand le premier argument d'un OR est vrai, le résultat ne peut être que ça. Mais attendez, lorsque le premier argument d'un OR est vrai, le résultat est forcément vrai, quel que soit le second argument. Alors pourquoi le calculer? Pourquoi perdre du temps à le calculer puisqu'on sait que le résultat final est vrai? Donc la règle du OR dit, je calcule, donc la forme OR, je vous en montre un exemple ici. Voici un OR qui dit OR, expression 1, expression 2, expression 3, etc. Donc le OR calcule l'expression 1. Si le résultat est vrai, alors vous savez que quels que soient les autres arguments du OR, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, le résultat sera vrai. Pourquoi les calculer? court-circuit, le résultat final est vrai. Donc, il n'y a que dans le cas où E1 est faux, que là on dit « Ah, le résultat final va dépendre du deuxième argument. » Donc je calcule le deuxième argument. Et à ce moment-là, le deuxième argument, quand j'en ai trois, devient à la place du premier. Si le deuxième argument était vrai, je sais que c'est même pas la peine de calculer la suite, ça sera toujours vrai. Alors que si le deuxième argument est encore faux, ben je dirais, ben je continue. Donc vous voyez que le OR a une sémantique qui est je calcule de la gauche vers la droite, et dès qu'il y en a un qui est vrai, je m'arrête de calculer puisque le résultat final est vrai. Le AND a exactement la même technique. Sauf que ce que vous voyez, c'est que quand est-ce que l'on peut prédire le résultat d'un AND quand on connaît le premier argument? Dans le cas faux. Car si le premier argument qui est ici, alors que le deuxième est là, est faux, vous voyez que le résultat final est faux, quel que soit le second argument. Donc en fait, un AND se calcule avec court-circuit en disant je calcule le premier, si le résultat est faux, je sais que le résultat final est faux. Donc ce n'est pas la peine de calculer la suite. Donc le AND ne ramène vrai que si tous les arguments sont vrais et il les a évalués tous, dès qu'il y en a un qui est faux, il rend faux et il s'arrête, et le OR a le comportement exactement symétrique, je calcule jusqu'à obtenir quelque chose de vrai, et à ce moment-là je rends vrai, et je ne peux rendre faux que si tous ont répondu faux les uns après les autres. Donc vous voyez la technique du court-circuit, et je le répète, c'est vrai dans tous les langages, C, C++, Java, etc., C Sharp, ils sont tous comme ça, c'est-à-dire que les AND et les OR sont tous des opérateurs, des connecteurs logiques à court-circuit, c'est-à-dire que dès que le résultat final est connu, on s'arrête de calculer et on rend ce résultat final. Donc vous voyez là une différence importante, je dirais, entre l'informatique et les mathématiques. Les deux, d'une certaine manière, satisfont le même contrat, les maths et l'informatique, sauf que l'informatique prend un raccourci pour aller plus vite, alors que les maths n'ont strictement rien à faire, ce n'est pas leur problème. Alors, la conjonction et les disjonctions s'écrit en AND ici, donc le « et puis toutes les choses derrière, ou OR et toutes les choses derrière, les expressions les unes derrière les autres, avec la règle de particulière. Ce que vous voyez, c'est que AND et OR ne sont pas des fonctions. Ce ne sont pas des fonctions mathématiques. Ce sont des formes spéciales, puisque justement, il se pourrait qu'on ne calcule pas tous les arguments. Puisque rappelez-vous que dès qu'on connaît le résultat final, on s'arrête de calculer les arguments. Donc ce n'est pas une fonction, c'est une forme spéciale. Par contre, le note, vous le voyez ici, il n'a qu'un seul argument. Donc on est obligé de le calculer. Et quand on le calcule, on rend la négation de son argument, ce qui fait que note est une fonction prédéfinie normale, alors que les deux autres sont des formes spéciales particulières. Donc voici un petit exemple où j'ai écrit que si x n'est pas négatif, eh bien je rends x pour la valeur absolue, sinon je rends l'opposé de x. C'est, comment dire, juste pour montrer un petit exemple du note. Alors, je remontre, comment dire, quelques exemples encore des AND et des OR pour bien faire entrer l'idée de cette sémantique à court-circuit. Vous avez un prédicat prédéfini qui s'appelle number, qui permet de savoir si une valeur scheme quelconque est un booléen ou pas. C'est-à-dire que sa signature, c'est de dire, je prends n'importe quelle valeur et je vous réponds vrai ou faux, à savoir, est-ce que c'est un nombre ou pas. Donc si je demande par exemple, est-ce que 32.45 est un nombre, la réponse est vraie. Mais si je dis, est-ce que la chaîne de caractères essai est un nombre, ça me répond faux. Vous avez un second prédicat positif qui permet de dire si un nombre est est positif ou pas. C'est-à-dire qu'elle... Si vous lui donnez 32.45, ça vous répond oui, 32.45 est positif. Mais si vous lui donnez une chaîne de caractères, attendez, le type dit, j'accepte des nombres, pas n'importe quoi. Je n'ai pas du tout la même signature que number qui prend n'importe quoi en entrée, c'est-à-dire toute valeur. La fonction positive ne prend en entrée que des nombres. Ce qui veut dire que c'est votre problème à vous de lui fournir des nombres. Il se trouve qu'elle est prédéfinie et assez tolérante, c'est-à-dire que en fait, si vous ne lui donnez pas un nombre, elle vous signalera une erreur, ce que, comment dire, on peut voir tout de suite dans l'environnement. Si par exemple ici j'écris, positive, point d'interrogation de la chaîne de caractère blabla, vous voyez effectivement que d'abord il dit positive erreur, puisque positive attend un argument de type number, et vous lui avez donné en fait une chaîne de caractères qui est la chaîne ALFD. Au passage, là encore, l'erreur est entourée en rose, de manière à vous montrer que c'est cette expression-ci particulière qui est erronée. Vous avez un petit lien ici qui permet, je crois, d'obtenir la documentation et qui permet effectivement de dire, eh ben, je vais dans la documentation et je vois effectivement que positive est quelque chose qui teste un nombre et qui vérifie effectivement qui ne prennent en entrée qu'un nombre, et pas n'importe quoi, pas une chaîne de caractères, pas un booléen, etc., etc. Bien. Alors, je prends maintenant une fonction que moi j'ai écrite qui est nombre positif, j'ai écrit cette fonction et je dis, je teste si une valeur est un nombre positif. Vous voyez en fait que ce que je fais, c'est que je fais un prédicat qui ressemble à positive, sauf que son type est plus large, c'est-à-dire au lieu de n'accepter que des nombres, ce que fait la fonction prédéfinie positive, le nombre positif ici prend n'importe quoi. Et vous voyez donc, en fait, ici j'ai un contrat qui est différent du contrat ici, puisque je suis capable d'accepter n'importe quoi, alors que la fonction positive n'accepte que des nombres. Et je vais donc écrire cette fonction-là. Ce que je veux, c'est que si je dis, est-ce que la chaîne de caractères essai est un nombre positif, ça me répond, non, c'est pas un nombre positif. Donc voilà une implantation particulière de nombre positif, sauf que celle-ci, elle est fausse. Alors, je dis un nombre est positif s'il est positif et que c'est un nombre. Pourquoi c'est faux? Je vous laisse réfléchir 3 secondes et demie. C'est faux parce que, pour vérifier si un nombre est positif, ici j'ai écrit AND, une conjonction, pas de problème. Donc maintenant, j'applique la fonction positive à la valeur que j'ai obtenue. Mais positive n'accepte que des nombres en argument. Or, ici, je ne sais pas encore que V est un nombre. Donc en fait, je le teste juste après. Donc la vraie définition, c'est de dire, premièrement, je teste que V est un nombre. Et maintenant que V est un nombre, je peux appliquer positif pour tester, oui, est-ce que c'est positif ou pas. Donc en fait, là, on voit bien que comme le calcul d'une conjonction se fait de la gauche vers la droite, en fait, il faut que je teste d'abord si c'est un nombre pour pouvoir donner à positif un nombre. Ok? Actuellement, j'ai appliqué positif sur un truc dont je ne connais pas le type et c'est seulement après que je vérifie que c'était un nombre. C'est une erreur parce que j'aurais dû faire les choses exactement dans l'autre sens, de la gauche vers la droite et non pas comme ça. Donc là, effectivement, si j'essaye avec essai, essai ici va devenir V. V, on va lui appliquer positif et positif va dire, ben non, mais essai, c'est pas un nombre et moi, j'attendais un nombre. Donc cette fonction-là est complètement fausse et donc doit être rectifiée pour pouvoir marcher. Alors, le dernier point, c'est ce qu'on appelle la forme let. Dans un grand nombre de cas, on a besoin de nommer les choses pour pouvoir les utiliser plusieurs fois. Alors, je vous donne tout de suite un exemple qui est, ici vous avez un théorème, qui ne s'enseigne plus depuis très très longtemps, qui dit en fait que quand vous avez un triangle quelconque qui a des côtés A, B et C, si vous nommez S le demi-périmètre, hein, A plus B plus C, le tout sur 2, donc c'est le demi-périmètre, alors l'aire du triangle, c'est la racine carrée de ce produit-là. C'est assez fort, ça a juste été trouvé un peu avant, un ou deux siècles avant Jésus-Christ. Ce truc-là, c'est une expression dans laquelle on voit que le demi-périmètre intervient 4 fois. Donc, l'idée, c'est de dire, mais attendez, si les matheux ont pris le soin de dire, je nomme S cette valeur-là, et qu'ils la réutilisent 4 fois, on comprend bien qu'effectivement, si vous n'aviez pas introduit la notation S, vous auriez dû écrire ici, A plus B sur C sur 2, facteur de S, facteur de, pardon, ouvrante, A plus B plus C sur 2, le tout moins A, puis A plus B plus C sur 2, moins B, etc., la formule aurait été nettement plus illisible. Donc d'une certaine manière, pour introduire une idée d'abord qu'il y a une symétrie par rapport aux 3 côtés, etc., on a introduit cette notation qui est le demi-périmètre. Donc on l'a introduite parce que ça rend les choses plus lisibles, plus simples, plus claires, etc., etc. En informatique, on a non seulement donc ce souci-là, mais on a un autre souci dit d'effectivité dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà en fait l'implantation, ou plus exactement une implantation du théorème qui est juste au-dessus. Je fabrique une fonction que j'appelle R triangle, elle prend 3 nombres qui sont les 3 côtés, les longueurs des 3 côtés du triangle, je rends un nombre qui est l'aire du triangle, et là vous voyez qu'effectivement en termes de type au sens physique, les types en fait des mathématiques et les types des langages de programmation sont inférieurs à la physique, parce qu'en physique, on aurait longueur, longueur, longueur donne R, c'est-à-dire des choses qui ont, comment dire, des cardinalités différentes, alors qu'en en informatique, là, on a tout mis en disant c'est des nombres tout ça, je prends trois nombres et je rends un nombre. Donc pas question de manipuler des mètres et des mètres carrés. Les langages de programmation, ça a été fait dont, il y a à peu près une trentaine d'années, ça n'a jamais pris. Les langages qui sont capables de manipuler des mètres carrés, des ampères, des coulombs, etc., ça n'a jamais pris, les gens n'ont jamais ressenti ce besoin-là. Donc quand les choses ne prennent pas, eh ben, elles meurent, et donc actuellement, tous les systèmes de type des langages de programmation ignorent les unités physiques. Bien, quoi qu'il en soit, donc maintenant, je donne la sémantique, l'aire d'un triangle de côté ABC rend l'aire d'un triangle de côté ABC. Là encore, on a une sémantique qui est extrêmement, je dirais, simpliste, puisque le problème est simple et que les termes sont connus. Voici une définition. La définition dit, je définis la fonction R de triangle, qui prend les côtés ABC, et maintenant, je définis à l'aide de cette forme qui existe ici, let, donc let en anglais c'est soit, c'est exactement la traduction en fait de ici, c'est soit S la valeur A plus B plus C sur 2, et bien je dis soit S la valeur divisé la somme de ABC par 2. Donc vous avez, en fait, vous voyez ici qu'on va dire que j'ai strictement paraphrasé ce qui se trouvait dans le théorème ici. Donc là, je dis que S, c'est la division par 2 de la somme des trois côtés A plus B plus C. Et maintenant, j'ai plus qu'à écrire que c'est la racine carrée, SQRT, c'est le nom abrégé pour square root, la racine carrée, du produit de S par S moins A, par S moins B, par S moins C. Donc là, vous voyez, en fait, une première explication qui est que, en nommant S le demi-périmètre, j'ai écrit ma formule exactement, semblablement au théorème qui se trouve ici. Donc déjà, les possibilités d'erreur en lisant le théorème et en regardant son implantation ici, la définition de la fonction, sont assez restreintes parce qu'en fait, la paraphrase de ceci est exactement égale au théorème qui est là. Maintenant, j'ai mentionné qu'il y avait un second effet en informatique qui est très important, qui est un problème d'effectivité. Si je n'avais pas écrit cette définition de S, j'aurais dû écrire, à chaque fois que j'ai écrit S, dans les quatre occurrences qui se trouvent ici, j'aurais dû écrire divisé plus APC par 2. C'est-à-dire que j'aurais fait quatre fois le côté du calcul du demi-périmètre. Je l'aurais calculé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et ça, c'est totalement inefficace. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait cette astuce-là, mon calcul aurait été quatre fois plus lent. Alors, quatre fois plus lent, c'est pas extrêmement gênant. Vous attendez trois ans, vous avez une machine qui est quatre fois plus rapide, donc ça passe exactement dans le même temps. Le seul problème, c'est que vous verrez, dès qu'on commencera à manipuler des structures de données plus compliquées, que en ne faisant pas ça, vous pouvez avoir des calculs qui, au lieu d'être en, ce qu'on appelle, en ordre de n, c'est-à-dire linéaire par rapport à l'entrée, vont devenir quadratiques, voire cubiques. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un calcul n fois, en vous débrouillant mal, vous allez le faire n carré fois. Et là, vous vous rendez compte que n carré, ça croît beaucoup plus vite que n. Et quand vous avez le malheur de faire un algorithme en n cube, ça croît encore plus vite que n. Et vous verrez donc, dans les faits, quand on verra la récursion, c'est que ne pas faire ce genre de truc conduit quelquefois à des calculs qui ne sont pas faisables. C'est-à-dire que vous attendrez toute votre vie le résultat et vous ne le verrez pas. Alors que si vous aviez factorisé, vous verriez le résultat du calcul. Donc il est très important que, en informatique, on ne calcule pas plusieurs fois les mêmes choses. On les calcule une fois et on les réutilise tout de suite après plusieurs fois. Alors, prenons un exemple parce que là, en fait, le calcul est trivial, mais supposons que je vous demande de dire j'aimerais imprimer deux fois la millionième décimale de pi. Alors déjà, calculer la millionième décimale de pi, ça prend un certain temps. Donc si vous dites, c'est simple, je dis que pour imprimer deux fois la millionième décimale de pi, il y a une fonction pour imprimer qui s'appelle display, je fais display millionième décimale de pi, je l'imprime, puis après je fais display millionième décimale de pi, je l'imprime une seconde fois. J'ai fait deux fois le calcul de la millionième décimale de pi. Comme il me faut trois jours pour le calculer, j'imprime mes deux nombres en 6 jours. Alors qu'en fait, si j'avais écrit let n, la millionième décimale de pi, imprime-la, je l'aurais calculé une fois et je l'aurais imprimé deux fois. Donc il faut bien voir que de temps en temps, il y a certains calculs qui sont tellement coûteux qu'il faut absolument les factoriser. Et vous le verrez, dans la récursion, ça devient primordial. La factorisation est un effet qui, si vous le mettez en œuvre, peut vous apporter une solution dans un temps correct, et si vous ne la mettez pas en œuvre, dans beaucoup de cas, ne vous permettra pas d'obtenir la solution de votre vivant. Et là, il y a clairement un problème d'effectivité que n'ont pas les mathématiques, par exemple. Alors, la syntaxe d'un let est un petit peu particulière, puisqu'en fait, elle a une structure avec pas mal de parenthèses que j'explique de la façon suivante. Donc, voici la grammaire de ce qu'on appelle un bloc local. C'est une forme qu'on retrouve dans tous les langages de programmation avec des syntaxes diverses et variées, qui consiste à introduire un certain nombre de choses à faire dans un bloc où on introduit des variables locales qui permettent de nommer des valeurs. Un bloc, donc rappelez-vous qu'une règle de grammaire, c'est quelque chose qui dit, vous avez une flèche au milieu qui permet de dire, la chose qui se trouve à gauche se définit comme la chose qui se trouve à droite. Donc on dit un bloc, ou un bloc local. Un bloc local, c'est parenthèse ouvrante LET blanc, une parenthèse ouvrante et une suite de liaisons. L'étoile, rappelez-vous, permet de dire il y a un certain nombre de liaisons, il peut y en avoir 0, 1, 2, 3, un nombre quelconque. Parenthèse fermante et le corps, ce qu'on appelle le corps du bloc. Parenthèse fermante. Donc cette parenthèse-là va avec ça. Les deux parenthèses qui sont là permettent d'enserrer les liaisons. Et les deux parenthèses qui sont là et là permettent d'enserrer la forme LET tout entière. Vous avez des langages, en C par exemple, au lieu d'écrire ouvrante LET, vous écrivez une accolade ouvrante, c'est-à-dire le symbole qui correspond à ceci. Vous mettez les liaisons en C à cet endroit-ci, et la parenthèse fermante en C s'écrit avec la chose fermante correspondante à ça, à savoir l'accolade fermante. C'est une variante syntaxique qu'on trouve dans beaucoup de langages, C, C++, Java, mais qui est exactement semblable à ça. Alors, les liaisons, qu'est-ce que c'est? Les liaisons, chacune des liaisons, c'est un couple avec le nom d'une variable et une expression qui permet d'initialiser la variable. Rappelez-vous qu'on dit soit S la valeur de A plus B plus C sur 2 dans le corps. Donc la liaison permet de dire j'associe un nom à la valeur qui a été calculée ici. Maintenant, des liaisons, vous pouvez en avoir un nombre quelconque. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire soit P le périmètre du triangle et soit S le demi-périmètre. Ça s'écrirait effectivement en disant je fais un let P égale A plus B plus C et périmètre égale A plus B plus C et soit S le demi-périmètre et let S égale à P sur 2 puisque c'est le demi-périmètre. Simple. Le corps du let, le corps du bloc, c'est en fait une expression, c'est-à-dire ce qu'il faut calculer dans cet environnement-là. Ce qui donne donc, si je prends un certain nombre de variables, par exemple un let, la parenthèse ouvrante ici se termine ici, le corps c'est l'expression qui se trouve ici, et ici j'ai introduit n liaisons, une première variable, une première valeur, une seconde variable, une seconde valeur, j'en mets autant que je veux, une dernière variable, n, avec sa valeur. Chacune des liaisons est entre deux parenthèses et toutes les liaisons sont enserrées dans les deux parenthèses qui sont là. Ok? C'est simple, tout est parenthésé de manière à ce que les liaisons apparaissent comme la première chose qui suit le mot let qui se trouve ici. Alors, pour l'instant, pour les petits exemples que vous faites, il se trouve qu'il n'y aura souvent qu'une seule liaison, ce qui veut dire qu'on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Ici, vous avez le let. Normal. Vous avez la parenthèse ici des liaisons qui s'ouvre ici et qui se termine là. Et maintenant, vous avez la première des liaisons qui est en fait la seule liaison. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit une espèce de double parenthèse ouvrante, qui est la liaison qui dit, ça s'appelle S, la valeur est là et la liaison se termine ici. Donc effectivement, dans le cas où il n'y a qu'une seule liaison, on a l'impression qu'il y a des parenthèses en trop. Mais la syntaxe du let permet de mettre autant de liaisons que vous voulez. Si vous voulez en mettre 100 000, c'est à vous de taper suffisamment vite pour pouvoir en mettre 100 000. Donc voilà la forme d'un let qui permet de dire j'introduis le nom S pour nommer la valeur qui est là. Et maintenant ce nom S, j'ai le droit d'utiliser dans le corps du let. Alors regardons un petit peu plus de façon précise comment se calcule un let. Pourquoi? C'est parce qu'un let, encore une fois, c'est une forme spéciale, c'est-à-dire qu'elle a des règles particulières d'évaluation. Ce n'est pas une fonction, un let. Alors voilà comment se calcule un let. Premièrement, rappelez-vous, on a ici les variables, les valeurs, c'est-à-dire les expressions qui permettent de donner des valeurs aux variables, et le corps. Donc premièrement, on calcule toutes les valeurs d'initialisation. L'expression 1, l'expression 2, l'expression n, etc. Ensuite, on crée des variables, qui sont les variables var1, var2, var3, etc. jusqu'à varn. Ensuite, on a la phase qu'on appelle de liaison aussi, qui consiste à dire, je prends l'environnement courant, c'est-à-dire l'ensemble des variables auxquelles j'ai droit, et j'étends cet environnement pour dire, bah maintenant, la variable i a pour valeur la valeur de l'expression i que j'ai calculée. Et donc ceci me fabrique un environnement où j'ai le droit d'utiliser plus de variables qu'avant. Puis maintenant, je calcule le corps dans cet environnement-là. Et quand je sors de la formulette, la variable locale a disparu. Ce qui veut dire que si je reprends l'exemple de ma fonction let ici, voyez que let ici, je dis attention, quel est l'environnement qui est là? Je vais le reprendre au tableau pour montrer les différents environnements. J'ai la fonction define R triangle, j'abrège, ABC, et je dis c'est un let de S qui est égal à plus ABC le tout divisé par 2 fermante, et maintenant je fais un calcul qui est de dire, eh bien je fais racine carrée SQRT de multiplier S, S moins A, S moins B, S moins C. Je termine ma parenthèse, mon SQRT, mon let, mon define. Bien. Lorsque je rentre dans la fonction, c'est-à-dire lorsque la fonction a été appelée avec, je sais pas quoi, par exemple 3, 4 et 5, lorsque je rentre dans la fonction, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Eh bien, l'environnement à cet endroit-ci, c'est l'ensemble des noms que j'ai le droit d'utiliser. Quel nom ai-je droit d'utiliser à cet endroit-là? Eh bien, j'ai le droit d'utiliser tous les noms de l'environnement prédéfini de Scheme, ce qu'on appelle l'environnement prédéfini. On dit aussi souvent l'environnement global. Et dans cet environnement global, on trouve quoi? On trouve la fonction plus, la fonction multipliée, la fonction SQRT. On trouve aussi la fonction R du triangle. Tout ça, j'ai le droit d'utiliser. Mais à cet endroit-ci, il y a trois variables supplémentaires que je peux utiliser. C'est les variables de la fonction qui sont A, B et C. Donc en fait, à cet endroit-ci, non seulement je peux utiliser l'environnement global, mais je peux utiliser les variables A, B et C. Ces variables A, B et C, je peux les utiliser tant que je suis dans la fonction, c'est-à-dire jusqu'au moment où j'en sors. Parce qu'après, ça n'a plus de sens. Quand vous parlez de la fonction X donne X2, X n'a de sens que dans X2. Il n'a pas de sens après. Il n'a de sens que dans la définition. Donc les variables A, B, C ici n'ont de sens que dans ces deux lignes-là et pas après. Donc en fait, à cet endroit-ci, ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire l'ensemble des noms auxquels j'ai droit, c'est tous les noms prédéfinis plus les variables de la fonction, à savoir A, B et C. Bien, maintenant je rentre dans le let et j'arrive à cet endroit-ci, c'est-à-dire dans le corps du let. Qu'est-ce que me dit le let? Eh bien que j'ai le droit en fait comme nom à tout l'environnement prédéfini, toutes les variables A, B et C, j'ai le droit effectivement d'utiliser les variables A, B et C puisque je suis dans le corps de la fonction. Ok, donc le A qui est ici, c'est le A qui se trouve là. Mais le let m'a introduit une variable supplémentaire de plus. C'est-à-dire que à cet endroit-ci, j'ai non seulement le droit d'utiliser ça et ça, mais j'ai aussi le droit d'utiliser S. C'est-à-dire qu'à cet endroit-ci, je peux utiliser S qui vient d'être introduit, je peux utiliser A, B, C qui ont été introduits lorsque la fonction a été appliquée, et je peux aussi utiliser toutes les ressources de l'environnement global, à savoir SQRT, plus, moins, etc. Donc en fait, si je regarde l'expression qui est là, et si j'essaye de souligner en fait d'où viennent les variables, je m'aperçois que j'ai des variables globales, SQRT c'est une variable globale, le bleu n'est pas terrible, la multiplication est une variable globale, le moins est une variable globale, le moins est une variable globale, le moins est une variable globale. Tout ça c'est global et ça apparaît dans cet environnement-ci. Maintenant j'ai des noms qui sont comme S. S c'est une variable locale qui est celle-ci et qui correspond donc à ce petit environnement-là. Décidément les couleurs ne marchent pas terrible. Le S est aussi celui-là, le S est aussi celui-là et le S ici est aussi celui-là. Et enfin j'ai une troisième catégorie de variables qui sont les variables, je vais les mettre dans des carrés, A, B et C, qui en fait correspondent à A, B et C, qui se trouvent ici, et qui correspondent à cet environnement que je cercle avec un, que j'entoure avec un carré ici. Donc vous voyez en fait que l'environnement, c'est à tout instant à quel ensemble de noms de variables j'ai le droit. Donc ici, j'ai le droit, en dehors de la définition, j'ai le droit à tout ce qui est global prédéfini. Dans la définition, j'ai le droit en plus aux variables de la fonction. Dans le let, j'ai le droit en plus aux variables locales du let, et ainsi de suite. Maintenant, la question, c'est que, enfin plus exactement la règle dans tout langage de programmation, c'est qu'à tout endroit, il existe un environnement. À tout endroit. Or, actuellement, dans ce que j'ai indiqué là, il y a un endroit où je n'ai pas mentionné quel était l'environnement. Cet endroit, c'est ici. Quel est l'environnement valable dans cette expression-ci? C'est-à-dire, si je reprends mon let ici, quel est l'environnement valable pour cette chose-là? Eh bien, comme le let a pour sémantique d'introduire un nouveau nom, il n'introduit ce nouveau nom qu'une fois qu'il a été défini. C'est-à-dire que je calcule ça, et ensuite seulement, je le mets dans S. Ce qui veut dire que l'expression qui est là, en fait, elle est dans l'environnement ici, et non pas dans l'environnement là. Bien sûr, quand je dis soit S égale à BC sur 2, ça ne peut pas définir, ça peut pas dépendre de S, puisqu'il n'y est pas encore. Donc en fait, alors ici on voit bien que le ABC, ce sont les ABC qui sont là, mais si jamais j'avais utilisé un S ici, ça ne pourrait pas être ce S-là, parce que je ne suis pas encore dans cet environnement-là. Je donne un petit exemple ici, qui montre effectivement les imbrications de portée. La portée d'une variable, donc j'ai parlé ici d'environnement. À un point particulier du programme, l'environnement, c'est l'ensemble des noms qui sont licites d'utilisation. Ok, c'est l'ensemble des noms que je vois. Vous avez une notion qui est, je dirais, complètement duale, qui est ce qu'on appelle la portée. La portée d'une variable, c'est-à-dire d'un nom qui est introduit à un endroit donné, c'est la zone de texte où vous avez le droit de l'utiliser. C'est-à-dire, c'est la zone de texte où la variable se trouve dans l'environnement. Ok? Environnement et portée, c'est deux notions duales. La portée d'une variable, c'est quoi? La portée de A, c'est tout le corps de la fonction, à savoir ces deux lignes-là. La portée de B, c'est la même portée que A, et la portée de C, c'est la même portée que A, à savoir les deux lignes qui sont là. Quelle est la portée de S? Eh bien, la portée de S, c'est le corps du let, à savoir cette unique ligne-là. Ce qui veut dire, en termes de portée, que l'expression qui permet d'initialiser la variable S, c'est en fait dans la portée de ABC, mais ce n'est pas dans la portée de S. La portée de S, c'est la ligne en dessous, et la portée de ABC, c'est les deux lignes qui sont en dessous. Ce qui veut dire que si je regarde mon petit exemple ici, regardez ce qui se passe. J'introduis un let qui dit « soit A égale 2 » dans le corps qui est là, c'est-à-dire les trois lignes qui sont là. Donc, la portée de A, c'est les trois lignes qui sont là. Qu'est-ce que fait le corps? Eh bien, il dit, let A égale 3, j'introduis deux nouveaux noms qui sont A et B. Ok? Donc, la portée de ce A-là et de ce B-là, c'est uniquement le corps, à savoir cette unique ligne-là. D'accord? Ce qui veut dire que, maintenant, si je regarde le A qui se trouve ici, dans quelle portée est-il? Eh bien, le A qui est ici, c'est ce A-là. Puisque, rappelez-vous que les formes, les initialisations, c'est-à-dire le 3 et le 2A qui sont ici, sont en fait dans la portée du A qui est là. Donc, le A qui est ici, c'est ce A-là, et ce n'est pas cela. Parce que le A et le B qui sont ici ne sont valables que dans cette unique ligne-là. C'est-à-dire que si je reprends encore cet exemple en montrant les portées, let A 2 dans let A, je sais plus quoi, 3, excusez-moi, et en même temps B égale 2A, maintenant dans le corps B, la portée du A ici c'est tout ce qu'il y a en dessous, la portée du AB c'est la ligne là, et la portée du B c'est la ligne là. Ce qui veut dire que ce A-là n'est pas dans la portée de ces deux-là, mais il est dans la portée de celui-ci. Donc le A qui est ici, c'est en fait celui-là. Pour ceux qui me, comment dire, auraient des difficultés, on peut aussi demander à Dr. Skin. Donc je vais aller ici, j'écris mon expression let A est égal à 2 dans let A est égal à 3 et B est égal à 2A et je dis, ok, je termine, B, fermante, fermante, je dis analyse la syntaxe, dis-moi où est le A, et vous voyez effectivement que le A qui est là, c'est ce A-ci, et ce n'est pas du tout celui-là. Par contre, le B, il n'y a aucun problème, le B c'est bien celui-ci, et je le montre, ce B-là, oui, je changerai avec une autre police, alors où est-ce que c'est déjà? Ça devrait suffire. Voilà. Donc le A qui est ici, on voit effectivement que c'est le A qui se trouve là, tandis que le B, effectivement ici, réfère le B qui se trouve à cet endroit-ci. Si j'avais écrit A ici à la place de B, ce que je vais faire immédiatement, je redemande à vérifier la syntaxe, le A maintenant, on voit bien que ce A-ci, c'est ce A-là, alors que ce A-là, c'est celui-ci. Vous voyez bien que les notions de portée, c'est la portée d'une variable, c'est la zone de texte où, a priori, je peux l'utiliser. Et la notion dual, c'est l'environnement, c'est je suis à un endroit, quelles sont les variables que je peux utiliser. Et donc, vous voyez que l'environnement à cet endroit-ci, c'est AB, plus, bien sûr, tout ce qui est global. Et à cet endroit-ci, l'environnement, c'est tout ce qui est global plus A. Donc vous avez ces deux notions-là qui sont extrêmement importantes, vous les retrouvez dans tous les langages de programmation. Alors, je passe ça. Ici, c'était la détection d'erreur. C'est effectivement, on a introduit dans Dr. Scheme une bibliothèque particulière qu'on appelle la bibliothèque NIAS et qui introduit un certain nombre de fonctions particulières vous permettant de faire des exercices un peu plus, je dirais, rigolos. Notamment des fonctions graphiques que vous verrez dans deux ou trois TD, et on a introduit une fonction particulière qui permet de signaler une erreur. Donc la fonction particulière qui permet de signaler une erreur, c'est la fonction erreur, et si vous regardez donc la fameuse carte qui est verte cette année, je crois, la fameuse carte de référence, elle est de quelle couleur cette année? Jaune. Bon, très bien. Donc la carte jaune, si vous la regardez, donc c'est la chose qu'il faut absolument regarder, c'est les seules choses qui sont importantes pour l'examen, et vous pouvez l'emporter à l'examen, vous verrez qu'il y a une fonction erreur qui permet de dire il y a une erreur et j'interromps tous les calculs. Donc non seulement j'interromps les calculs, mais je les interromps en mettant un message d'erreur qui est composable par vous-même. Donc regardez par exemple cette chose-là. Cette chose-là est une fonction qui permet de calculer l'aire d'une couronne, c'est-à-dire l'air qui se trouve entre deux disques concentriques. Donc vous avez un disque concentrique qui a un rayon R1, vous avez un disque concentrique qui a un rayon R2, et vous cherchez l'air de la chose qui se trouve ici. C'est facile, vous calculez l'air du grand cercle et vous soustrayez l'air du petit cercle. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez bien que si le premier rayon correspond au cercle intérieur et qu'il est inférieur au cercle extérieur, c'est la différence entre, c'est la différence entre l'air du rayon extérieur moins l'air du rayon intérieur. C'est faux, mais c'est pas gênant. Maintenant, vous avez supposé, en fait, et c'est marqué dans la spécification, que vous ne voulez calculer l'air d'une couronne que si cet air, d'une certaine manière, est positive, c'est-à-dire si le deuxième rayon est bien supérieur au premier rayon. La difficulté, et en fait vous avez à, je dirais, réfléchir par vous-même, c'est comment faire pour dire que dans la signature, c'est-à-dire les types qui sont là, je prends un rayon et ce rayon doit être positif, je prends un second rayon et ce rayon doit aussi être positif, je rends l'air de la couronne, certes, mais je veux que le premier rayon soit inférieur au second rayon. Or, vous voyez bien à cet endroit-ci, quand j'énonce les types, que les rayons R1 et R2, je ne les ai pas encore nommés. Donc comment puis-je dire que le premier doit être inférieur au second? Eh bien, je ne peux le dire que lorsque j'ai, en fait, mentionner les choses, et donc je dis que l'aire de la couronne R1, R2 rend l'aire de la couronne de rayon extérieur R1. Ah ben non, je me suis pas trompé, et de rayon intérieur R2, mais une erreur est signalée lorsque R1 est plus petit que R2, c'est-à-dire lorsque le rayon extérieur est a priori plus petit que le rayon intérieur, ce qui n'est pas normal. Donc pour signaler, et là je rappelle que c'est une notion de contrat, cette fonction, quand elle expose son contrat, elle dit, si jamais vous me donnez un R1 qui est plus petit que R2, je vous signalerai une erreur, je ne voudrai pas aller plus loin. D'accord ? C'est-à-dire, c'est dans le contrat. Je vais vérifier que vous me donnez un R1 et R2 qui ont du sens. Si je n'avais pas écrit cette ligne-là, erreur, eh bien, a priori, j'aurais dit, vous voyez que je donne deux nombres, et je dis, je vous rends la couronne de rayon intérieur R1 et R2. Comme je n'ai rien dit sur les rapports entre R1 et R2, ça veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi. Je peux, par exemple, si je ne fais pas la vérification, vous rendre un nombre négatif qui correspond à l'opposé de l'air de la couronne. Mais voyez bien que ce n'est pas mentionné dans la spécification. Lorsque je mentionne explicitement qu'il y a une erreur, ça veut dire que dans le contrat, je suis obligé de vérifier que les conditions sont bien réunies. Et si les conditions ne sont pas réunies, je suis obligé de vous dire, j'arrête les calculs parce que vous avez violé le contrat, à savoir que vous ne m'avez pas donné un R1 qui est plus petit que R2. Donc voyez que là, le contrat spécifie quelque chose de plus, qui est le contrat spécifique que je suis obligé de vérifier que les choses que vous m'avez données sont conformes à ce que j'attendais. Le problème, et ça c'est une source, je dirais, d'arguments politiques et juridiques, c'est quand les contrats sont muets sur des trucs, et que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe quand le contrat ne dit rien ? Eh bien, il se passe n'importe quoi, et après il y a des procès pour essayer de savoir si on voulait plutôt dire ceci ou cela. On est en informatique, on n'a pas le temps à perdre dans des procès qui durent des années, car rappelez-vous, on a un souci d'effectivité, à savoir obtenir les calculs vite. Donc, la technique consiste à dire, si je ne dis rien et que vous violez les invariants, c'est votre problème, il se passe n'importe quoi, c'est pas mon problème. Par contre, si dans le contrat j'ai dit que R1 devait être inférieur à R2, alors l'implantation doit vérifier que c'est le cas. Et si ça n'est pas le cas, je fais une erreur et j'arrête les calculs. Alors, il y a une variante qui est l'hypothèse. Donc l'hypothèse, c'est toujours en termes de contrat. Quand j'écris cette spécification-là, je dis hypothèse, R1 est plus grand que R2. Et dans le cas d'une hypothèse, ça dit, la fonction qui implémente ça dit, par hypothèse, j'ai prévu que R1 devait être plus grand que R2. Mais ce n'est pas mon problème de le vérifier, c'est à vous qui m'utilisez de faire en sorte que l'hypothèse soit vérifiée. D'accord ? Donc vous voyez que dans ce cas-ci, je peux écrire ça, puisque je répondrai toujours à non positif, puisque j'ai supposé par hypothèse que R1 était plus grand que R2. Mais ça veut dire que si l'utilisateur qui m'appelle ne vérifie pas l'hypothèse, il a n'importe quoi, mais c'est son problème. Alors que dans le cas précédent, j'ai dit, c'est une erreur lorsque R1 est inférieur à R2, alors l'implanteur ici est obligé de vérifier que cette propriété est vraie. Donc vous voyez en fait que la preuve d'une certaine manière ici est soit laissée à l'appelant, et c'est son problème s'il n'y répond pas, soit laissée à l'appelé, et il faut absolument qu'il y réponde. Donc le contrat est divisé en disant, s'il y a erreur, qui est responsable de signaler l'erreur ou pas. Donc ici, c'est l'appelé qui vérifie. Là, l'appelé dit, par hypothèse, l'appelant me donne des nombres corrects, donc c'est son problème s'il me fait calculer n'importe quoi. Et donc là, la responsabilité, c'est l'appelant. Et donc vous voyez que les contrats deviennent un peu plus fins que des contrats standards, puisque maintenant, dans le cas où ça se passe mal, avec une erreur ou avec une hypothèse, eh bien, vous mettez la responsabilité de la vérification du fait que vous êtes dans la situation d'anomale, anormale ou pas, soit sur l'appelant, soit sur l'appelé. Pourquoi fait-on ça? C'est parce qu'en fait, dans un certain nombre de cas, il est extrêmement coûteux de vérifier des choses. Et pourquoi il est coûteux? C'est parce que premièrement, vous pouvez être amené à les vérifier des tas de fois, et plus vous vérifiez une propriété qui est toujours vraie, et plus vous perdez du temps, et que dans un certain nombre de cas, en fait, il vaut mieux dire à l'appelant, c'est à vous de vous assurer que les données sur lesquelles vous me faites travailler sont correctes, pour que je puisse travailler à la vitesse grand V, Et dans d'autres cas, la plante ne sait pas très bien quelle donnée il a, et il dit à la plaie, sois précautionneux et vérifie le maximum de choses. Quand la vérification ne coûte pas grand-chose, ça va, mais quand la vérification, il y a des algorithmes où la vérification de conformité des données est plus compliquée que le calcul qu'il y a à faire. Et ça, vous n'avez pas envie de le faire plusieurs fois. Bien, alors, je termine ici. Le vocabulaire, on en a parlé, je repars dessus. Donc, pour le cours suivant, comme toujours, vous avez maintenant les CD-ROM qui vous ont été remis lundi dernier. Vous avez le cours entier qui se trouve dessus, donc lisez et relisez-le. Vous avez donc à regarder ces trois points particuliers qu'on a regardés. Et on vous demande de faire ces trois petits exercices, ainsi qu'un certain nombre d'auto-évaluations qui se trouvent sur le CD. Et si tout se passe bien, vous aurez la bande son ce soir ou demain. Merci.